Bonjour et bienvenue dans l'émission Enquête ou Enquête d'Histoire, présentée par Jeanne-Marie. Je suis historienne et j'ai envie de faire revivre le passé de notre département car son histoire est riche et mérite d'être mieux connue. Cette émission de 30 minutes sera mensuelle. J'y accueillerai un intervenant, historien ou archéologue, ou autre à qui je poserai des questions. Bonjour les auditeurs de Radio MDM. Nous sommes dans l'émission Enquête d'Histoire ou Enquête d'Histoire. Et comme pour les précédentes émissions, Didier Vigneault, archéologue et spécialiste de notre région durant l'Antiquité, nous accompagne aujourd'hui encore une fois. Durant les 7 émissions que nous avons passées ensemble, nous vous avons présenté de nombreux aspects de cette période lointaine qu'est l'Antiquité, hein, quand même 2000 ans au moins, même bien au-delà, 3000 ans si on prend l'âge du fer. Donc, et lors de notre dernière émission, nous avions parlé des échanges durant cette période gallo-romaine, c'est-à-dire entre 2000 et 1500 ans, disons, les échanges, le commerce, etc. Alors aujourd'hui, Didier va nous parler des pratiques funéraires de nos très lointains ancêtres. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Alors aujourd'hui, tu as prévu de nous présenter ces pratiques funéraires durant l'âge du fer, puis durant la période gallo-romaine.
Oui, parce que je ne suis pas qu'un spécialiste de l'Antiquité, je suis aussi spécialiste des périodes anciennes, plus anciennes que l'Antiquité, notamment l'âge du fer. Et donc je vais vous présenter ces pratiques funéraires. Mais avant de commencer, je voudrais simplement rappeler que le centre de recherche archéologique sur les Landes auquel j'appartiens et dont je suis membre est reconnu comme d'intérêt départemental et qu'il bénéficie du soutien et d'une subvention du département des Landes.
Bien, alors, aujourd'hui les pratiques funéraires. C'est une question importante, que ce soit en archéologie ou que ce soit en histoire. Parce que ces pratiques funéraires nous parlent des rapports des populations avec la mort, avec la religion, donc forcément avec la vie. Et cela peut passer par des rituels, des pratiques et des formes très différentes. Alors tout d'abord, comment connaît-on ces pratiques funéraires ?
Alors ce que l'on connaît actuellement des pratiques funéraires dans les Landes provient de fouilles anciennes, de l'archéologie préventive, qui elle est prescrite par l'État, c'est-à-dire ordonnée par l'État. Mais surtout, on connaît ces pratiques funéraires grâce aux travaux du Centre de Recherche Archéologique sur les Landes, qui est une association de bénévoles qui interviennent depuis environ 30 ans dans le département. Avant de détailler le sujet, je trouve qu'il est nécessaire de comprendre les termes qui seront utilisés au cours de notre échange. Et je vais employer les termes de nécropole, d'inhumation et de crémation. Donc une nécropole, c'est le second nom qui est utilisé pour désigner un cimetière, même si l'archéologie préfère employer ce terme pour les périodes antérieures au Moyen-Âge. Pour synthétiser, l'inhumation, c'est la pratique funéraire qui consiste à enterrer le défunt dans un cercueil ou en pleine terre, ou à le déposer dans une structure funéraire comme un sarcophage, un mausolée ou un tertre fait de pierre et ou de terre. Il existe ensuite un tas de variantes à l'inhumation, elle peut être habillée ou non, c'est-à-dire que le corps est vêtu de vêtements ou pas, elle peut être parée, il peut y avoir des bijoux qui accompagnent pas le défunt, elle peut contenir un dépôt d'objets ou pas. Ces objets sont des objets de la vie quotidienne ou des objets liés au rituel. Il peut aussi exister des cas d'inhumation dans des grottes, ça on en a retrouvé notamment dans les Pyrénées. Alors la crémation, elle, consiste à faire subir une incinération au corps. Au cours des périodes anciennes, un bûcher était monté pour accueillir le corps, puis l'ensemble était brûlé. Les restes de la crémation étaient ensuite déposés dans une fosse qui était creusée directement dans le sol, soit directement creusée dans le sol, ou soit dans une urne en céramique ou en verre qui était elle-même déposée dans cette fosse. Là aussi, on retrouve toujours plein de variantes de cette pratique funéraire, avec un défunt qui est habillé ou non, qui est paré ou non. C'est-à-dire, paré, dans le sens de paré, est-ce qu'il porte des bijoux, est-ce qu'il a d'autres attributs avec lui ? Voilà. Il y a aussi des variantes dans le dépôt en terre, avec par exemple l'accompagnement de bijoux ou d'armements brûlés ou non. Alors, toutes les variantes que je viens d'évoquer pour les pratiques funéraires peuvent coexister à la même période sur le même territoire. Puisqu'à la même époque, on peut retrouver des incinérations et des inhumations dans une même nécropole, et ces incinérations et ces inhumations peuvent être habillées ou non, parées ou non, avec tertre ou pas. Vous voyez, donc il existe un tas de possibilités. Ce dont on est certain aujourd'hui, c'est qu'avec l'expansion du christianisme, la crémation disparaît au début du Moyen-Âge, même si l'archéologie découvre de très rares incinérations qui continuent à être pratiquées et que l'on ne sait pas interpréter. Il faut savoir quand même que le christianisme s'accompagne de l'interdiction d'une crémation, mais comme vous le verrez tout à l'heure, la crémation a continué à perdurer assez longtemps.
Alors, puisque là, nous avons fait un petit tour général, crémation, bûcher funéraire, moi ça me fait penser par exemple aux pratiques des populations vikings.
Alors, il y a les pratiques des populations vikings, mais plus proche de nous, la crémation existe aussi en Inde.
Oui.
Certains Indiens, en effet, incinèrent leurs défunts. Mmh. Pour nous, un cas d'école, enfin, ce qui nous permet d'apprendre énormément sur les crémations, puisqu'il y avait beaucoup d'anthropologues qui sont partis en Inde assister à ce rituel pour voir comment les Indiens procédaient.
Oui, c'est-à-dire que là, on a un vrai bûcher.
On a un vrai bûcher, mais pas que.
Oui.
La crémation, aux époques anciennes, s'accompagne de tout un rituel, mais il y a aussi la nécessité d'avoir des servants de ce bûcher. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour vérifier que la crémation se passe bien, pour vérifier que le corps est toujours maintenu en place, quelquefois même pour asperger le corps de parfum, pour éviter bien évidemment les odeurs désagréables. Bref, il y a tout un rituel autour de la crémation, et c'est un acte qui est beaucoup plus complexe que le fait de cramer et d'incinérer un corps.
D'accord. Alors, dans les Landes, finalement, comment ça se passe?
Alors, dans les Landes, je vais aujourd'hui vous parler des périodes chronologiques qui sont situées avant le Moyen-Âge. Ces deux périodes chronologiques sont la proto-histoire et la période romaine. Alors, la proto-histoire, elle va commencer aux alentours de 2200 avant Jésus-Christ et se terminer au niveau de la conquête, c'est-à-dire aux alentours de 50 avant Jésus-Christ. La période romaine va commencer de 50 avant Jésus-Christ pour se terminer aux alentours de 400 après Jésus-Christ. Au cours de proto-histoire, on identifie deux types de structures funéraires, les tumulus et les tombes plates. Dans les Landes, les tumulus sont des tertres d'une vingtaine de mètres de diamètre pour environ 1,50 m de hauteur. Ils sont réalisés avec le sédiment local, c'est-à-dire soit de la terre ou du sable en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire au nord de la Dour ou en Chalosse, et ils peuvent être parfois entourés d'un fossé et d'une couronne de pierre. Le centre de recherche archéologique sur les Landes a fouillé trois tumulus, deux sur la commune de Montségur, qui est située dans le sud du département, où les tombes étaient positionnées au sommet du tertre et dotées de mobilier d'accompagnement. Il y avait notamment des armes et des bijoux. C'est à cette occasion que nous avions découvert l'un des plus grands javelots de combat d'Europe, qui mesurait 2,03 m si ma mémoire est exacte. Un troisième tumulus a été fouillé à l'Oranger. Alors à l'Oranger, c'est sur la commune de Mont-de-Marsan, à la sortie de la ville, à la sortie est de la ville, où la sépulture était cette fois-ci au milieu du tertre. Nous connaissons à ce jour quatre nécropoles de plusieurs tumulus, on appelle des nécropoles tumulaires, dont une à Sarbazan, où des tertres ont été fouillés anciennement et certains ont même été pillés.
C'était des tertres qui contenaient de très très nombreuses urnes, si je me souviens bien.
Contenaient très nombreuses urnes avec du mobilier d'accompagnement, des bijoux, de l'armement.
D'accord. Alors, il est temps de faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Didier?
Alors, je vais vous proposer aujourd'hui Daniel Guichard, avec son titre très bien connu, « Mon vieux ».
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
MDMA, MDMA, votre radio locale.
Nous reprenons le cours de notre émission, je rappelle, Enquête d'histoire ou Enquête d'histoire, et aujourd'hui, Didier Vigneault, archéologue, nous parle des pratiques funéraires. Alors, que nous a-t-il dit durant notre premier volet ? Eh bien, il nous a parlé globalement de deux types de pratiques qui sont, d'une part, les crémations de corps, et d'autre part, l'inhumation dont on va davantage parler maintenant. Hein. Et il a évoqué notamment un certain nombre de tumulus qui ont été fouillés dans les Landes. Et donc, nous allons reprendre à partir de ces tumulus, ou tumuli, comme on veut. Alors, Didier, étant donné qu'il y a peu de tumuli qui ont été fouillés, peut-on généraliser ?
Alors oui, il y a peu, on peut dire les deux, on peut dire tumuli et tumulus, maintenant c'est accordé. Avant ce n'était pas le cas, on disait tumuli, mais maintenant beaucoup de chercheurs emploient le terme de tumulus au pluriel. Donc les deux sont possibles. Donc il y a eu très très peu de tumulus qui ont été fouillés dans les Landes, donc il est difficile de généraliser sur ces ouvrages funéraires. On ne peut pas donner une norme à un standard, c'est impossible. Alors, il faut savoir quand même, ceux de Montségur et de Sarbazan sont datés de la fin du premier âge du fer, soit aux alentours de 450 avant notre ère, et les tombes étaient en fosses dans lesquelles sont déposées des urnes à couvercle et des vases d'accompagnement.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces vases d'accompagnement ?
Alors, il s'agit de vaisselle, mais on ne sait pas si c'est de la vaisselle qui était utilisée dans l'habitat ou de la vaisselle qui a été faite pour l'occasion. Ça, malheureusement, pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Hein. Certains vases semblent avoir été utilisés au quotidien, d'autres non. Donc, pour l'instant, il y a toujours des recherches à ce sujet, savoir si cette vaisselle est une vaisselle dite domestique ou si c'était une vaisselle funéraire.
Alors, j'ai une question, justement, puisque tu as parlé tout à l'heure de tumulus et de tombe plate.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut savoir ou imaginer les raisons pour lesquelles on différencie les deux ? Pourquoi certains sont enterrés dans des tombes plates, comme aujourd'hui, on dirait, hein ? Aujourd'hui, on a des tombes plates. Et puis, alors, par contre, aujourd'hui, dans les cimetières, ceux qui peuvent faire ériger, par exemple, un caveau qui est beaucoup plus cher, eux ont un caveau. Hmm. Est-ce que c'est du même ordre ?
Oui, oui. Pour les périodes très anciennes, on découvre... Alors, chez nous, nous n'avons pas d'inhumations qui sont découvertes dans les nécropoles. Mais par contre, je prends le cas notamment au nord-est de la France, notamment en Champagne, qui est un territoire qui a montré une forte densité en nécropole. On a plusieurs pratiques qui coexistent au sein d'une même nécropole. Il y a certains qui se font ériger un mausolée, d'autres sont inhumés, d'autres sont incinérés, certains n'ont pas de parure, d'autres ont des parures. Voilà, il y a eu une coexistence de différentes pratiques au cours d'une même période et dans la même région. Il est tout à fait possible que nous ayons des cas de figure, pour l'instant, que nous n'avons toujours pas découvert dans les Landes, mais pour l'instant, nous ne savons pas réellement interpréter pourquoi il y a une telle diversité de pratiques funéraires. Est-ce que c'est lié au statut social du défunt ? Est-ce que c'est lié à sa croyance ? Beaucoup pensent que c'est cette deuxième option qui est la vérité, mais pour l'instant, nous n'en savons absolument rien, et scientifiquement rien.
D'accord. Alors, revenons un petit peu donc aux tombes plates, parce que tu nous as parlé des tumulus. Qu'en est-il des tombes plates ? Il y en a beaucoup plus qui ont été fouillées ?
Oui. Alors, concernant les tombes plates, on en a surtout retrouvé énormément. Hein. Je ne vais pas dire que beaucoup plus ont été fouillées, puisque sur les 47 nécropoles que l'on compte pour l'instant dans les Landes, 5 sont datées du second âge du fer, et toutes les autres sont datées de la fin de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ, et entre la fin de l'âge du bronze et le premier âge du fer, qui est la période qui commence à 750 avant Jésus-Christ et se termine à 450 avant, bien évidemment. Donc on en a fouillé 5 totalement. Donc on ne peut pas dire qu'on avait fouillé énormément, 5 sur 47 c'est très peu, mais les 5 ont été très très bien fouillés, donc nous avons un regard assez intéressant maintenant sur les pratiques funéraires qui ont existé au sein de ces nécropoles en tombes plates. Donc les tombes sont mises directement dans une fosse creusée dans le sol, les restes de la crémation sont soit déposés directement dans la fosse, ou soit déposés dans une urne funéraire. Ces urnes sont d'ailleurs beaucoup plus grosses au premier âge du fer, tout comme les couvercles qui les ferment. À cette même période, on note aussi la présence de petits vases d'accompagnement qui sont déposés dans l'urne, dont on ne connaît pas encore la fonction. Même s'il est possible, mais rare, de trouver du mobilier d'accompagnement avant, le dépôt de mobilier se généralise dans les sépultures à partir de la fin de l'âge du fer. C'est au second âge du fer que le mobilier se généralise, avec du mobilier de parure et des armes. Donc pour synthétiser, au second âge du fer, on a beaucoup de mobilier d'accompagnement, et avant, on peut éventuellement en trouver, mais c'est extrêmement rare. Alors, quant aux nécropoles de ce type, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 ont été fouillées, une à La Glorieuse qui atteint 140 tombes, ce qui est assez important, mais en prospection, nous en avons repéré une dizaine d'autres qui semblent atteindre ou dépasser ce nombre.
Donc, pour l'avenir, il y a encore de belles fouilles assurées.
Oui, bien sûr, il y a encore plusieurs générations d'archéologues qui pourront exercer dans les Landes, il y a encore beaucoup de travail à réaliser, oui.
Quel sens peut-on donner à la présence d'armes, d'objets familiers ou de mobilier d'accompagnement ? Parce que c'est quand même une pratique qui est très différente, par exemple, de nos pratiques contemporaines. Que l'on fasse une incinération ou bien que l'on enterre dans une tombe. Il y a très longtemps qu'on ne met plus ni d'armes, ni d'objets familiers, ni de bijoux dans les tombes. Alors là, est-ce qu'on peut effectivement penser que c'est lié à des croyances particulières ? Par exemple, comme dans l'Égypte ancienne, peut-on penser qu'on veut accompagner le défunt avec ses objets familiers dans sa vie future ? Ou bien est-ce qu'au contraire, on veut si on ne croit pas forcément à la vie future, on n'en sait rien hein, du tout. Est-ce que la présence de ces objets, c'est tout simplement le fait qu'on détruit aussi en même temps que lui ce qu'il a eu parce que ça ne doit pas servir à d'autres?
Oui, c'est ce que l'on pense aussi. On pense que les objets qui accompagnent le défunt ne doivent pas être réutilisés. Et il y a plusieurs cas, notamment dans les incinérations, où on va aussi détruire ce mobilier-là, c'est-à-dire qu'on va empêcher qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Donc le mobilier est déposé sur le bûcher, et une fois qu'il est bien chaud, des servants vont prendre ce mobilier et le plier, donc pour éviter qu'il soit réutilisé. Donc le mobilier d'accompagnement semble être un mobilier strictement personnel et privé, qui ne doit pas être réutilisé par d'autres. Donc ça fait appel certainement à d'autres croyances, hein, ou une pratique sociale aussi. Ça, on ne connaît pas du tout encore le sens de ce mobilier qui accompagne le défunt. On pense que c'était juste un mobilier privé.
Alors, tout à l'heure, quand on a parlé d'incinération, évidemment, j'ai pensé aux ossements. Y a-t-il des spécialistes qui travaillent justement sur ces ossements en archéologie? Parce que c'est bien particulier, il faut avoir une excellente connaissance de l'anatomie. Et quelles informations sur ces populations peuvent nous apporter ces ossements ou ces dépôts osseux, si c'est possible?
Donc on a des spécialistes qui travaillent sur les ossements, on appelle ça les anthropologues dans le jargon. Et ce sont des gens qui vont étudier bien les restes osseux. Alors c'est beaucoup plus facile pour eux de travailler sur des inhumations, puisque le corps, le squelette du défunt est pratiquement entier. Au moins ce qu'il en reste, s'il n'y a pas eu d'acidité du sol qui a détruit les restes. Une inhumation, c'est assez facile de travailler dessus. On peut déterminer l'âge, le sexe, la taille de l'individu et son état de santé. Mais une incinération, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir travailler dessus. Je vais vous donner un exemple. Au cours de la protohistoire, le dépôt osseux présent dans la sépulture dépasse rarement les 200 grammes. Sachant que le reste osseux d'un individu qui est incinéré varie entre 1,3 et 2 kg. Donc, lorsque le corps est incinéré, en théorie, il reste entre 1,3 et 2 kg, mais on ne retrouve que 200 grammes à l'intérieur des urnes. D'où la question qui interroge les chercheurs, où sont les autres restes osseux de l'individu? Où sont-ils passés? Qu'en ont-ils fait? Et ça, malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours absolument aucune réponse là-dessus. Il est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement difficile de déterminer le sexe du défunt dans une incinération, car il manque souvent des os diagnostiques pour le faire. S'il y en a, le mobilier d'accompagnement ne le permet pas non plus, car dans d'autres régions qui possèdent des inhumations, on a déjà vu des hommes accompagné de bijoux et des femmes accompagnées d'armements. Donc, ce n'est pas avec le mobilier que l'on peut reconnaître le sexe du défunt. Même si nous en avons repéré en prospection archéologique, il est impossible à ce jour de connaître le nombre d'individus au sein des habitats qui sont à proximité des nécropoles, car il manque réellement de fouilles extensives. Nous avons très peu d'interventions de l'archéologie préventive sur notre territoire, et ce sont les seuls qui peuvent vraiment ouvrir des fenêtres très très larges sur les parcelles, et donc avoir une fouille beaucoup plus intensive et beaucoup plus fine que ce que nous faisons nous. On ne connaît pas le volume de population, comme je le disais, à des époques données, mais il nous semble maintenant aujourd'hui que le nombre de tombes que l'on retrouve est extrêmement faible. On a des nécropoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui contiennent 140 individus, mais on a des nécropoles où nous n'avons que 5 individus. Donc c'est très très faible. Alors c'est un constat qui n'est pas que landais, c'est un constat à l'échelle de l'Europe, et tout le monde s'interroge sur le traitement des défunts pour le reste de la population. Alors quant à ceux que nous retrouvons, qui sont-ils? Font-ils partie de l'élite pour avoir le droit à sépulture? Voilà, il y a encore plein de questions qui sont à ce jour sans réponse pour l'archéologie.
De toute façon, on peut imaginer que parfois, un certain nombre d'individus, lors des épidémies notamment, étaient morts en masse. Donc, cela, on se dépêchait peut-être de les laisser de côté, on ne les enterrait pas forcément avec tous ces rites. Quand il y a une grande épidémie qui décime une population, on se dépêche de mettre tout le monde dans une fosse, on brûle, etc. Ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge.
Alors, il y a des fosses collectives de mémoire qui ont été trouvées, mais ce sont plutôt des inhumations.
Alors, quand on arrive à la période gallo-romaine, voilà, il y a une évolution des pratiques funéraires, ou pas ?
Alors, au début de la période gallo-romaine, il n'y a pas d'évolution des pratiques funéraires, on pratique toujours l'incinération. Hein, du moment où le christianisme se renforce, là, on va trouver des inhumations, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le christianisme, normalement, interdit l'incinération. Donc, on peut synthétiser en disant que 1er, 2e, 3e siècle, on risque de trouver des incinérations, et qu'à partir du 2e, 3e, les inhumations apparaissent, à partir du christianisme. Nous avons un cas, là, notamment à Dax, où récemment, l'archéologie préventive a fouillé des inhumations datées du 4e siècle. Donc le rapport de l'opération sortira d'ici 2 ans, mais nous savons déjà qu'il a été possible de connaître l'âge, le sexe, l'état de santé des individus, leur taille aussi. Hein. Une autre nécropole à inhumation a été découverte en sondage préventif sur la commune de Sognac et Cambran. Toutes ces nécropoles sont datées, elles aussi, du bas empire romain, donc du 4e siècle. Au 4e siècle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, on devrait avoir des inhumations, mais on s'aperçoit que dans les campagnes, les choses sont tout autres. Ça, c'est une vérité qui existe en Europe. Hein. Et nous, pour nous, dans les Landes, il y a une crémation qui a été datée de la fin du 4e siècle, que j'ai fouillée sur la commune de Saint-Martin-d'Aunay. Et il y a une autre crémation de la même période, qui n'a pas été fouillée, celle-ci, et qui est sur la commune de Serres, et qui montre que la pratique de la crémation existe encore dans les campagnes.
Alors, donc, est-ce que l'archéologie nous donne des informations différentes de celles que l'on pourrait avoir par des textes, notamment à l'époque gallo-romaine ?
Pour l'instant, nous n'avons pas de différence entre les textes et ce que l'on voit sur le terrain, mis à part les histoires de chronologie et le fait que dans les campagnes, visiblement, le christianisme a eu du mal à arriver, ou alors il y a eu un mélange de rites, soit d'une part le christianisme mixé avec peut-être du paganisme ou d'autres rites locaux. C'est la seule chose que nous avons comme différence. Mais pour l'instant, donc, si je dois résumer et conclure, nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance du monde des morts à la protohistoire, mais nous n'avons que peu d'informations sur la période romaine et pratiquement aucune sur le néolithique. Il y a une tombe probable à Saint-Sevé et une autre probable à Sordes, mais c'est tout ce que nous savons. Donc le monde des morts, nous le connaissons bien pour la proto-histoire, mais très très peu pour les autres périodes. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est une bonne chose, c'est que la recherche continue sur ce sujet, avec notamment la création d'un groupe de travail européen qui est dédié à la recherche sur les nécropoles proto-historiques et auxquels sont associés les membres du Centre de recherche archéologique sur les Landes. Et bien évidemment, les Landes bénéficieront de ces travaux.
Alors, nous allons nous séparer sur cette très bonne nouvelle. Au revoir Didier, et merci beaucoup pour ce travail de présentation à nos auditeurs. Tu vas prendre des vacances bien méritées. Et on se reverra à la rentrée. Et pour nos auditeurs, nous nous reverrons effectivement à la rentrée, puisque l'émission continuera à vous accompagner une fois par mois, le mardi à 13h et le dimanche de la même semaine à 13h30, avec rediffusion la semaine suivante. Et il vous faut consulter quand même la grille des programmes. N'oubliez pas que des podcasts de l'émission sont à votre disposition pour réécoute. Nous vous disons donc au revoir, bonnes vacances et
bonnes vacances.
À la rentrée.
Au revoir.